Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'usage du verbe rebondir au sens figuré s'est répandu au début du siècle comme une traînée de poudre et a connu une fortune étonnante. En réalité, il y a deux sens figurés, mais l'un est plus figuré que l'autre. Dans le second sens, rebondir s'utilise dans la discussion quand on veut passer d'une idée à une autre avec agilité ou pour réagir avec une énergie positive, enchaîner, prendre la balle au bond. Elle est bien souvent flanquée de la préposition « sur » en mode post-position, par exemple « pour rebondir sur ce que vous avez dit » ou bien « permettez-moi de rebondir »,« je voudrais rebondir », etc. On entend souvent rebondir à la radio, dans les débats, les discussions, à plus de deux personnes. D'ailleurs, en 2009, Libération, quotidien des tendances, lui consacrait un article qui soulignait que rebondir confère aux échanges quelque chose d'éminemment ludique, comme une balle ou une sorte de patate chaude qui passerait d'un interlocuteur à l'autre. La parole, ainsi délestée de toute gravité, gagne en élasticité, en souplesse, en légèreté. Mais avec le temps et un usage un peu exagéré, l'expression « rebondir » finit par perdre de sa légèreté et annoncer au contraire des tunnels de langue de bois, des échanges de paroles où tout est déjà joué, où les rôles sont écrits d'avance, sans spontanéité ni légèreté. Dire « rebondir » dans une discussion devient ringard ou mauvais signe. Dans le premier sens, figuré, rebondir est une injonction adressée aux personnes en difficulté à déployer l'énergie du désespoir, à sortir de la victimisation, à ne pas se laisser abattre, à se prendre en main avec le sourire, à transformer le négatif en positif. C'est une vision assez individualiste des problématiques sociales, mais ce sont parfois des histoires singulières et très fortes. En voici deux femmes qui ont donc su rebondir, aider les autres pour s'aider elles-mêmes, deux récits par Judith Chétrit que nous avons intitulé « Rebondir ».
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, je m'appelle Claude Boiron, j'ai 54 ans, je suis célibataire, sans enfant. J'ai fait médecine vraiment dans la suite de la famille, puisque mes deux parents sont médecins. Et quand je suis montée à Paris pour l'internat, en fait, je n'avais absolument pas d'idée sur ce que j'allais faire en termes de spécialité. On m'a mis d'office dans une des deux ailes qui s'occupait de patients atteints de cancer. Et quand j'ai découvert ce service, j'ai surtout découvert une femme qui s'appelle Laure, qui était chef de clinique et qui était une femme absolument super, enfin magnifique. Et je me suis dit, voilà, elle m'a vraiment donné envie de faire comme elle. Donc là, on est dans les années 90, la cancéro, c'est compliqué, il y a beaucoup d'effets secondaires, enfin la cure de chimiothérapie, c'est lourd, il y a beaucoup de souffrance. Et Laure, c'était la vie et la joie. C'est-à-dire qu'en fait, elle prenait en compte leurs souhaits et quand ça allait mal, elle les accompagnait jusqu'au bout, alors que souvent, j'ai pu voir des cancéros à partir un peu et s'éloigner des patients. Elle, pas du tout, elle s'investissait jusqu'au bout. Et du coup, c'est toute cette belle personnalité-là qui, moi, m'a complètement subjuguée quand je l'ai rencontrée. J'ai 30 ans, en fait, et j'ai fini mon internat, j'ai débuté mon clinica et j'ai passé le diplôme universitaire des maladies du sein parce que j'étais très... Voilà, le cancer du sein était une pathologie qui m'intéressait et donc, voilà, je voulais approfondir cette chose-là. Et c'est en juillet 97, donc quelques mois avant la fin de mon clinica, que je palpe... une masse dans mon sein gauche. Et la première chose que je me dis, oh, c'est trop gros pour que ce soit un cancer. Et au moins 15 jours plus tard, je me réveille en pleine nuit, une grande crise d'angoisse, je repalpe mon sein, je me dis, mais c'est pas possible, il faut quand même que je fasse quelque chose. Donc le lendemain, je quitte le boulot, tranquille, je vais faire ma mammo, tranquille, je préviens personne. Donc je passe la mammo et puis La manipulatrice revient à moi en me disant « Bon, bah, écoutez, on va faire un deuxième examen, attendez le radiologue. » Et le radiologue est venu, a fait une échographie, et au fur et à mesure qu'il passait du temps sur mon sein gauche, il commence à me poser la question « Qu'est-ce que vous faites ? Je suis médecin. Qu'est-ce que vous faites comme spécialité ? Je suis cancérologue. » Je voyais qu'il commençait à être gêné et donc tout ça, j'étais pas très rassurée et j'oublierai jamais. Il repose sa sonde d'écho et il me dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Il me propose de voir la mammographie. Effectivement, je vois sur mon sein gauche criblé de ce qu'on appelle de microcalcification, mais complètement criblé sur tout l'ensemble du sein. Et il me dit à l'échographie, je retrouve une masse. En réfléchissant, c'est vrai que je pense que cette histoire d'une collègue jeune, j'avais 32 ans, qui fait de la cancéro, qui a un cancer du sein, et très vite on s'est rendu compte que c'était un cancer du sein extrêmement grave, je crois que effectivement ça participe au fait que les soignants ont pu m'accompagner avec une certaine forme d'empathie tout au long de ma maladie. On est dans les années 97. À l'époque, il y avait 4000 femmes qui avaient un cancer du sein à moins de 35 ans. Donc, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de très rare. À 30 ans, je pense que je ne pouvais pas imaginer que j'avais un cancer, dans la mesure où, à 30 ans, on est dans la vie, point barre, quoi. Et le lendemain matin, je me réveille. Je me souviens toujours de cette première milliseconde où là, j'ai l'impression que... Et puis en fait, non, ça ne va plus du tout être comme avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un millième de seconde où j'ai eu l'impression que la vie allait être comme les autres jours. Et puis, en fait, la réalité est arrivée et j'ai tout revécu, l'annonce, le cancer et tout ça. Et là, j'ai su que définitivement, ma vie ne serait plus jamais pareille. Donc j'arrive à l'hôpital Saint-Louis, je vois mon collègue, donc qui est devenu mon cancérologue. Donc il m'examine, il fait venir tout de suite le chirurgien du sein qui met tout de suite des marques sur mon torse et on prend date pour l'ablation du sein. Donc ensemble on décide que l'opération sera le lundi suivant en fait. Et je suis restée jusqu'au vendredi. Il m'a fallu ces 5 jours. Ça, je le dis parce que dans ces chirurgies ambulatoires, maintenant, il faut aller tout très vite. Le temps a son importance. Et je n'ai pu regarder ma cicatrice qui était faite tous les matins par une infirmière uniquement le dernier jour parce que l'infirmière m'a accompagnée, parce que l'infirmière m'a dit « Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble la cicatrice ?» Et le cinquième jour, j'étais prête et je lui ai dit « Oui ». Et en fait... Il y a le cancérologue qui laisse un message sur le téléphone en me disant « Claude, tu as 13 ganglions sur 14 qui sont atteints par la maladie. Il va falloir commencer la chimiothérapie extrêmement rapidement. » Là, par contre, là, pour moi, c'était une autre étape. Et donc là, je comprends à la fois la chimiothérapie et je comprends surtout le pronostic. 13 ganglions sur 14, une tumeur comme la mienne... qui avait tous les critères d'agressivité. Je connaissais les statistiques. C'était moins de 10% de chances d'être en vie à 10 ans. Donc, bien sûr, j'informe mon chef de service de ce qui m'arrive. Et en fait, je ne suis pas retournée dans le service puisque le traitement était long et que passer le concours de praticien hospitalier, c'est rentrer dans la fonction publique. En tout cas, c'est être assimilé à la fonction publique. Et il ne faut pas être atteint de cancer. Donc, il s'est posé aussi le problème pour moi, à 32 ans, de me dire, si ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir passer mon concours de praticien hospitalier parce que j'ai un cancer. Donc, tout ça était... il fallait du temps, en fait, pour se poser. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir continuer 2 fois 1 an mon clinica dans un autre service. C'était fou, c'est-à-dire que j'allais dans un service de cancéro m'occuper de patients atteints de cancer, j'avais ma perruque, j'avais ma pompe de 5 effus, c'est-à-dire mon produit de chimiothérapie qui passait sous mes vêtements, et j'étais chef de clinique. Et en même temps, je vivais ça. Bon, d'abord, j'avais pas le choix, le côté financier. Et puis, reprendre une activité professionnelle, ça a vraiment été structurant et très aidant pour moi. Parce que tout d'un coup, je me retrouvais quand même avec une fonction hospitalière. Je pense que ça m'a vraiment permis de mieux vivre ce qu'a été rétrospectivement un traumatisme d'une extrême violence, en fait. J'ai quand même eu de la part de mes collègues cette question, mais est-ce que tu vas continuer la cancéro? Probablement parce que ils imaginaient effectivement une projection trop importante et qui ferait que je quitterais jamais tout à fait la maladie, que je serais toujours en contact et du coup ça m'enverrait toujours cette image de maladie. C'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit mais est-ce que je vais pouvoir continuer la cancéro? Et puis assez rapidement je me suis dit mais je sais rien faire d'autre. Et du coup j'ai laissé les choses se faire et après ça a mis du temps mais j'ai fini par trouver une position dans laquelle j'étais bien. Mais après la chimiothérapie donc a été extrêmement assez destructrice on va dire, j'ai eu 5 ans de rémission. 5 ans où ça m'a permis d'exercer dans un hôpital en périphérie, d'exercer donc ma pratique de chimiothérapeute, de me rendre compte que c'était compliqué quand même pour moi d'annoncer les mauvaises nouvelles. Et c'était en cours de cette expérience professionnelle, donc en 2003, que j'apprends que j'ai une récidive de la maladie. En fait, c'est les cellules cancéreuses qui sont allées se mettre au niveau de mes os. Donc là, c'est pareil, mon savoir médical, je sais qu'une maladie qui se met dans les os ne guérit pas. Donc là, je sais que je vais donc vivre avec ce qu'on appelle un traitement à vie, c'est-à-dire que je mourrai avec cette maladie. Et quand j'ai rechuté et que mon cancérologue m'a proposé de la chimiothérapie, j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'étais célibataire, parce que j'avais pas d'enfant et que moi, la vie, j'avais envie de la continuer d'une certaine façon et que je ne me voyais pas revivre le cathéter, la chimio, tout ça. Je ne le voulais pas. Donc du coup, on est parti sur un traitement d'hormonothérapie et le miracle, bah, en fait, c'est que ça a marché. Et c'est en 2008 et 2009 où là, il y a eu de façon parallèle l'essor de ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire que prendre en charge un patient qui a un cancer, c'est la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, mais aussi de façon obligatoire la prise en compte de la personne dans sa globalité, donc ce qu'on appelle les soins de support. Et là, j'ai compris que c'était vers ça que je voulais aller, que c'était là ma place. Et du coup, c'est pour ça que depuis 2009, je fais du soin de support, c'est-à-dire que je ne prescris plus de chimiothérapie. Et en fait, un peu à mon insu, j'ai développé ces consultations d'accompagnement global sur l'après-cancer. Je me suis vraiment rendu compte de l'appétence que j'avais à comprendre et à aider ces femmes à rebondir après un cancer. Parce qu'une des problématiques de l'après-cancer, souvent, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet après? Et en sachant qu'il y a de nouvelles priorités qui émergent. Et du coup, c'est en 2016 où le projet a vraiment été concrétisé. Parce que j'ai la chance d'avoir deux amis très proches, Franck et François. Franck qui est professeur de théâtre et François qui est professeur de yoga. Et c'est tous les trois, en fait, qu'on a réussi à fonder une association qui s'appelle À Force d'Envie, qui propose depuis 2016 des séjours dans le Morvan. Ce sont des séjours de 7 jours où 8 femmes viennent partager donc ce quotidien. Donc on met en place de l'activité physique avec la marche nordique, il y a tout le côté alimentation saine et locale. Et puis bien sûr, il y a tous les ateliers d'approche psychocorporelle, qigong, yoga, méditation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'effet thérapeutique ne s'arrête pas à la fin du séjour, puisque ce qui se crée au sein de ce séjour, c'est des alliances, des amitiés extrêmement fortes entre parfois tout un groupe ou en tout cas entre certaines d'entre elles, et ce bénéfice-là, ce soutien, cette complicité se poursuit au-delà du séjour. Et en termes de financement, nous, c'est des séjours qui nous reviennent à peu près 950 € par femme dans une optique de soins, parce qu'on estime que c'est thérapeutique. on propose une participation, enfin disons qu'on leur demande de participer à hauteur de 200 euros maximum, sachant que celles qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce séjour à 200 euros, on a les moyens de prendre entièrement en charge le séjour. Je le vis à fond parce que les femmes qui viennent savent ce que j'ai vécu et que je ne suis plus dans un rapport de médecin à des patientes, mais qu'on est tous pareils sur ce séjour-là. Et c'est vrai que là, du coup, ce partage, je le vis de façon très forte et c'est vraiment très enrichissant.
Transculture, les pieds sur terre.
Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Mon père est peintre bâtiment et ma mère est secrétaire de direction dans une boîte d'import-export. J'habitais dans le sud, sur la Côte d'Azur. J'ai insisté auprès de mes parents pour pouvoir faire des études agricoles. Du coup, je suis allée dans la Drôme passer mon BEP agricole. Ensuite, mon bac pro, et ensuite, je suis arrivée dans l'Indre pour passer mon BTS agricole. On a cherché avec mes parents une exploitation, enfin une ferme à vendre dans le coin où je pourrais élever des chèvres et faire du fromage. Et nous avons trouvé la ferme ici à Bille, donc ça fait 12 ans. Dans la région, avoir 170 chèvres, c'est plutôt une petite exploitation. Après, pour une personne seule, en transformation fromagère, c'est énorme. Les deux premières années, c'était assez, comment dire, facile, entre guillemets, parce que je touchais les subventions. J'avais mon compagnon de l'époque qui m'aidait hors de son travail pour les gros travaux de la ferme. Tout allait bien, les chèvres avaient du lait. Sauf que les factures s'entassaient dans ma paperasse, je n'ouvrais pas mon courrier. Et puis, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque. J'avais la transformation fromagère qui est arrivée. Mes fournisseurs qui n'étaient pas payés, qui commençaient à réclamer ce que je leur devais. De 2009 à 2013, j'étais au-dessus de ma vie, quoi. Je travaillais comme un robot, je faisais ce que je devais faire, je m'occupais de mes animaux. Sauf que financièrement, j'ai jamais pu payer un salarié. Et quand j'ai eu digéré ma rupture avec mon compagnon de l'époque, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Donc en 2013, il y a un homme qui me contacte sur ce site de rencontres. Et donc là, va s'engager un dialogue entre nous deux pendant presque 3 ou 4 mois. Des mails très longs, très bien écrits, et on s'est rencontrés du coup au salon de l'agriculture. On a bu, on a bien mangé. Et alors moi, j'étais encore plus sous son charme. Et quand il a fallu partir, alors là, moi, je serais restée avec lui toute l'année au salon de l'agriculture. Et ça semblait être réciproque parce qu'il avait l'air d'être très bien avec moi aussi. Donc voilà, c'était une première rencontre réussie. Très vite, il a arrêté de travailler et il a déménagé, il est venu habiter ici. Donc les premiers mois de son installation ici, c'est l'homme dont j'ai toujours rêvé. Moi, j'en ai plein les yeux. Mais quand même, insidieusement, il me pousse toujours un peu à bout parce qu'il sait que je suis quelqu'un de très impulsif, qui n'aime pas l'injustice. J'ai une grande empathie, mais j'ai aussi beaucoup de caractère. Donc en fait, il essaye des fois de me pousser à bout et ça peut pas passer. Et donc du coup, moi, je m'agace. Et là, il arrive un moment où, 5 mois après notre rencontre, il me dit « Ah, tu veux jouer au bonhomme ?» Il m'attrape par les épaules, il me colle contre le placard en bois chez moi et avec ma tête, je casse le placard en deux. Et là, en fait, je suis sidérée. J'étais tellement persuadée que ça pouvait pas m'arriver à moi parce que je suis quand même quelqu'un de fort. Et je me dis, mais il a dû avoir un excès de, je sais pas, de colère ou un problème. Et après la sidération, je lui pardonne. Plus ça va, et plus il souffle le chaud et le froid. Un coup, il va être le vrai prince charmant avec moi, il va me faire des bons petits plats, il va être aux petits soins avec moi, il va me mettre sur un piédestal auprès de ses amis. Et un coup, pour une petite broutille, il va me dénigrer, tout ce que je fais, c'est pas bien. Et là, la violence physique, elle va recommencer en fait quand j'attends mon premier enfant. J'étais enceinte de 5 mois. Et il m'a étranglée sur la table, là, et je lui ai dit « Arrête !» J'ai dit « Tu t'imagines que t'es en train d'étouffer ton fils dans mon ventre, quoi ?» Plus ça allait, plus c'était régulier et souvent. Il y avait rarement des traces. C'était me menacer, me mettre la pression, me tirer par les cheveux, donc aucune trace. Une fois que mon enfant Milo était né... J'ai voulu une fois aller chez les gendarmes. Il a pris mon fils et il l'a mis derrière les roues de mon camion pour m'empêcher d'aller à la gendarmerie. J'ai regardé dans mon rétro, j'ai vu l'image de mon fils placé derrière les roues de ma voiture. J'imagine que si j'avais reculé, il l'aurait enlevé. N'empêche que rien que le geste de faire ça, c'est horrible, quoi. Moi, du coup, ça commençait à se ressentir aussi sur mon travail à la ferme. Je faisais le strict minimum pour que mes chèvres ne soient en vie, quoi. Mais sinon, ça s'arrêtait là. J'avais plus assez de production pour faire la traite et puis pour fournir les AMAP. Et la demande de redressement judiciaire, elle est intervenue quand j'ai, pas longtemps après que j'ai rencontré donc le père de mes enfants. Le redressement judiciaire, il aurait dû m'aider à sortir la tête de l'eau et à redresser l'exploitation. Et en fait, pas du tout. Ma vie privée et ma chute, la chute de ma ferme, c'est lié, quoi. La première fois que j'ai fait venir le gendarme, on était dehors. Il a voulu m'enlever mon fils, Milo. Donc il a pris dans les bras et il a voulu partir à pied. À l'époque, il n'avait pas de voiture. Et je le suivais. Et à un moment donné, ça l'énervait tellement que je le suivais, je le lâchais pas, qu'il s'est retourné et il m'a redonné mon fils. Et il m'a chopé par les deux oreilles et il m'a éclaté la tête contre la voiture qui était dehors. Et j'avais mon fils dans les bras. Et en relevant la tête, ma tête a cogné contre la tête de mon fils. Et là, c'est lui qui a appelé les gendarmes, c'est même pas moi, en disant que je voulais pas le laisser rentrer dans la maison pour récupérer ses affaires. Et le gendarme a demandé à me parler. Et il m'a dit, mais attendez, il y a un enfant là qui pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai raconté. Et il dit, je vous envoie une patrouille de pompiers et une patrouille de gendarmerie. Et je suis partie aux urgences. La gendarme qui s'était occupée de moi ce jour-là me donne le nom d'une personne qui s'occupe au niveau du département des violences conjugales. Et je contacte cette personne. Elle m'a orienté vers la plainte, mais ça a été long. Alors j'ai déposé 5 plaintes pour coups et blessures, vol, et elles ont toutes été classées sans suite, pour faute de preuves. Il a toujours nié les coups. Enfin, et ça, la personne que j'avais été voir, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, malgré tout, il faut quand même, à chaque fois, appeler les gendarmes qui viennent. Alors, à chaque fois, les gendarmes, ils étaient dépités. Hein. Moi, à la fin, ils me disaient presque qu'ils ne viendraient plus, quoi. J'ai été voir une association à Blois, qui s'occupe aussi de la prise en charge. L'association a fait un signalement préoccupant auprès du procureur. Et j'ai porté plainte, il y a 2 ans, l'été 2017. Et cette plainte-là, par contre, pour l'instant, elle est toujours en cours. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais elle n'a pas, pour l'instant, été classée sans suite. Et en avril 2018, la juge aux affaires familiales a ordonné une ordonnance de protection qui mentionnait qu'il n'avait plus le droit de prendre contact de quelque manière que ce soit avec moi ou mes enfants. Et depuis, il est parti. Il s'est évaporé. Je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Et il n'a plus jamais donné de nouvelles à ses enfants. Aucune pension alimentaire. Le problème, c'est qu'il a toujours l'autorité parentale, même s'il ne s'occupe pas du tout de ses enfants. Il a l'autorité parentale, donc je suis censée lui demander son autorisation pour beaucoup de choses. Donc, une fois l'ordonnance de protection lancée, je renais de mes cendres, entre guillemets, par rapport à l'exploitation. Je cherche des solutions pour la sauver vraiment, quoi. Et alors, au début, je voulais presque vraiment une nouvelle vie. Donc, voilà, je voulais partir. Et puis, en fin de compte, je cherche à m'associer. Et c'est là que j'ai rencontré Agnès sur Facebook, sur une page de paroles d'agricultrice face à la crise. Elle était ouvrière agricole pendant quelques années. Puis elle a vu à un moment donné que je mettais pas mal de publications, parce que je suis un peu engagée à ce niveau-là, au niveau de la violence conjugale. Et elle m'a raconté son histoire et elle a vu mon annonce concernant ma recherche d'associé. Elle m'a demandé si elle pouvait convenir. Et comme elle avait un grand besoin aussi, je pense, de changer de vie, quoi, je suis allée la chercher avec un camion de déménagement et elle est partie comme ça du jour au lendemain, presque sans prévenir personne. On veut s'associer, on a des idées communes au niveau du travail de l'exploitation. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un projet de financement participatif afin de racheter des chèvres pour que notre association puisse se faire. Et là, en fait, l'idée m'est venue d'accueillir ces victimes-là et leurs enfants, parce qu'il en manque dans notre région. Et quand on n'a nulle part où aller, on reste chez soi. Et voilà, ça me tient à cœur. C'est vraiment un projet que j'espère qu'il verra le jour. On aura besoin de l'aide d'autres associations et de l'aide de beaucoup d'autres professionnels, des psychologues, des forces de l'ordre, parce que faut que l'endroit il soit sécurisé aussi, parce que ces hommes-là, souvent, ils lâchent pas l'affaire si facilement, ils reviennent à la charge. Des juges, des assistantes sociales. Enfin, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas si facile à mettre en place. En fait, je revendique mon droit de rester paysanne sur ma ferme que j'ai créée depuis 12 ans et tous les jours je me bats pour ça. Donc en parallèle, pouvoir donner le droit à des femmes de fuir et de rester en vie.
C'était Rebondir, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Clémence Grosse. Merci à Claude Boiron, à Christelle Djedani et à Jeanne Delecroix qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre, ainsi qu'à Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.